Test de compréhension orale. Exercice 1. Vous allez entendre parler d'Augustin, une personne dont la biographie est exceptionnelle. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, décidez quelle est la réponse correcte A, B, C ou D pour chaque question 1 à 8. Mettez une croix dans la bonne case sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
La France mystérieuse. Mystérieuse.
Augustin le Sage naît en 1876 à Auchel, dans le Pas-de-Calais. Son père étant mineur de fond, il le sera aussi. Nous sommes en 1911. Depuis des années maintenant, Augustin descend dans la mine. Ce matin-là, le voici donc qui travaille seul dans une galerie quand une voix impérieuse s'adresse à lui. Un jour, tu seras peintre. Augustin reste pétrifié. Jamais de sa vie, il n'a tenu un pinceau. Cette voix, d'où vient-elle? Que lui veut-elle? Elle devient harcelante. Chaque fois qu'il est seul dans les dédales obscurs d'une galerie, elle lui répète « Un jour, tu seras peintre ». Quelque temps plus tard, il entend des camarades discuter de spiritisme et tout devient alors plus clair. Oui, ce sont les esprits qui lui parlent. Augustin comprend qu'il doit se laisser faire. Dès lors, ceux-ci ne le quittent plus. Il crée sa palette, dirige sa main, les conseils sont précis. Jusqu'au nom des pinceaux et des couleurs qu'il doit aller chercher chez un certain monsieur Porriche, à quelques kilomètres de chez lui. La première toile de Le Sage est un immense tableau carré de 3 mètres sur 3. L'homme travaille avec une extrême minutie, sans schéma ni recul. Sa peinture consiste en une accumulation d'éléments minuscules disposés autour d'un axe de symétrie verticale. Cette première œuvre, composée malgré lui, lui demandera une année entière. « Je sais bien que je ne puis rien peindre si je ne me mets pas sous l'influence des esprits », explique le sage. L'ancien mineur intéresse les chercheurs de l'Institut Métapsychique International, qui lui demandent d'exécuter un tableau sous leur contrôle. Il leur dit être en extase et entendre des cloches lorsqu'il se trouve devant sa toile. Maintenant, Augustin ne cesse de peindre au gré des esprits. Un jour, il représente des scènes de l'ancienne Égypte. L'année suivante, il embarque pour Alexandrie et dans la vallée des Rennes, non loin de Louxor, lors de la visite d'un tombeau, il reste en arrêt devant une scène de moisson. Elle est parfaitement identique à celle de son tableau. Augustin le Sage, peintre des esprits ancestraux. À sa mort, en 1954, cet artiste singulier laissera près de 800 toiles, dont certaines sont conservées au musée d'art moderne de la ville de Paris. Esprit ou non, le sage reste un préfigurateur de l'art brut unique en son genre et l'une des figures artistiques les plus énigmatiques du XXe siècle.
La France mystérieuse. Mystérieuse.
Augustin le Sage naît en 1876 à Auchel, dans le Pas-de-Calais. Son père étant mineur de fond, il le sera aussi. Nous sommes en 1911. Depuis des années maintenant, Augustin descend dans la mine. Ce matin-là, Le voici donc qui travaille seul dans une galerie quand une voix impérieuse s'adresse à lui. « Un jour, tu seras peintre. » Augustin reste pétrifié. Jamais de sa vie, il n'a tenu un pinceau. Cette voix, d'où vient-elle? Que lui veut-elle? Elle devient harcelante. Chaque fois qu'il est seul dans les dédales obscurs d'une galerie, elle lui répète « Un jour, tu seras peintre. » Quelque temps plus tard, il entend des camarades discuter de spiritisme et tout devient alors plus clair. Oui, ce sont les esprits qui lui parlent. Augustin comprend qu'il doit se laisser faire. Dès lors, ceux-ci ne le quittent plus. Il crée sa palette, dirige sa main, les conseils sont précis. Jusqu'au nom des pinceaux et des couleurs qu'il doit aller chercher chez un certain monsieur Porriche, à quelques kilomètres de chez lui. La première toile de Le Sage est un immense tableau carré de 3 mètres sur 3. L'homme travaille avec une extrême minutie, sans schéma ni recul. Sa peinture consiste en une accumulation d'éléments minuscules disposés autour d'un axe de symétrie verticale. Cette première œuvre, composée malgré lui, lui demandera une année entière. « Je sais bien que je ne puis rien peindre si je ne me mets pas sous l'influence des esprits », explique le sage. L'ancien mineur intéresse les chercheurs de l'Institut Métapsychique International, qui lui demandent d'exécuter un tableau sous leur contrôle. Il leur dit être en extase et entendre des cloches lorsqu'il se trouve devant sa toile. Maintenant, Augustin ne cesse de peindre au gré des esprits. Un jour, il représente des scènes de l'ancienne Égypte. L'année suivante, il embarque pour Alexandrie et dans la vallée des Rennes, non loin de Louxor, lors de la visite d'un tombeau, il reste en arrêt devant une scène de moisson. Elle est parfaitement identique à celle de son tableau. Augustin le Sage, peintre des esprits ancestraux. À sa mort, en 1954, cet artiste singulier laissera près de 800 toiles, dont certaines sont conservées au musée d'art moderne de la ville de Paris. Esprit ou non, le sage reste un préfigurateur de l'art brut unique en son genre et l'une des figures artistiques les plus énigmatiques du XXe siècle.
Exercice 2. Vous allez entendre une interview avec Thomas Pesquet, un spationaute en mission dans l'espace. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, décidez quelle est la réponse correcte, A, B, C ou D, pour chaque question 1 à 6. Mettez une croix dans la bonne case sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, et donné en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Bonjour Thomas, Christine Chapelle de TF1. Je voudrais savoir, est-ce que la station spatiale est comme tu l'avais imaginé ?
Bonjour Christine. Eh ben, non, écoute, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. C'est vrai qu'on était quand même très familier avec le, avec la répartition des modules, avec les équipements, parce qu'on s'est entraîné pendant des années. Moi, ça fait 7 ans que je la prépare, cette mission. Donc, on est censé connaître les moindres boulons, les moindres équipements. Mais pourtant, quand on arrive ici, ce qui frappe, c'est l'impression de liberté. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Ce qui frappe, c'est une nouvelle façon de travailler aussi, parce que il faut pas laisser échapper ses outils ou son micro, par exemple, parce que sinon on le retrouve à un endroit complètement différent de là où on l'avait laissé, ce qui m'est arrivé 30 secondes avant de prendre l'antenne. Mais au final, je trouve ça très très pratique. C'est vraiment une nouvelle manière de travailler, mais qui est tellement plus confortable que sur Terre. Voilà, alors je parle même pas de la vue, mais la vue, malheureusement, comme on a commencé à travailler dès le début, j'ai pas encore pu beaucoup en profiter, mais ce week-end je compte passer la plupart de mon temps dans la cupola et puis essayer de prendre quelques photos sympas et puis regarder un petit peu dehors.
Raconte-nous, quelle est la journée type dans l'ISS?
Alors la journée type dans l'ISS, on va se lever à 6h du matin à peu près. Ensuite, on a à peu près une heure et demie pour se préparer, prendre sa douche, faire le petit déjeuner, etc. Enfin, comme sur Terre. Et puis, à 7h30, on commence par une grande conférence avec tous les centres de contrôle, le centre de contrôle de l'ESA, notamment à Munich, en Allemagne. On passe en revue le plan de la journée, on pose nos questions, on répond aux questions qui ont été posées. Et ensuite, c'est parti pour un peu le marathon de la journée. On est encadré, aidé par le centre de contrôle qui va répondre à nos questions, qui va nous donner des informations. On échange beaucoup par radio. Et puis voilà, le plan nominal, ça va être des activités pour entretenir la station. Donc hier, par exemple, j'ai testé tout le système d'eau pour m'assurer qu'il n'y a pas de bactéries indésirables ou de choses comme ça. Ça m'a pris un moment. Et puis j'ai déjà réalisé des expériences dans Columbus, deux nouvelles expériences qui étaient prévues pour ma mission, que j'ai déjà commencé à installer hier. Une avec des surfaces innovantes qui sont auto-nettoyantes, en fait, sur lesquelles les bactéries adhèrent pas, que j'ai réparti un peu partout dans la cabine, et une pour le traitement de l'eau qui faisait partie de mes activités d'hier. Il y a aussi un dosimètre actif qui est juste là à mes pieds. Partout autour de nous, c'est des équipements scientifiques, donc c'est à ça qu'on s'occupe la plupart du temps. Et puis parfois aussi, il y a aussi des pannes et des réparations. Et par exemple, on a passé une bonne partie de la journée, aussi c'était pas prévu, à réparer les toilettes qu'on cassait dès le deuxième jour. Donc ça, c'était un peu la tuile. Mais en même temps, je me dis que ça arrive au début de la mission, ça y est, on a utilisé notre quota de malchance et maintenant ça devrait marcher jusqu'à la fin. Du moins, j'espère.
Bonjour Thomas, Christine Chapelle de TF1. Je voudrais savoir, est-ce que la station spatiale est comme tu l'avais imaginé ?
Bonjour Christine. Eh ben non, écoute, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. C'est vrai qu'on était, quand même très familier avec la répartition des modules, avec les équipements, parce qu'on s'est entraîné pendant des années. Moi, ça fait 7 ans que je la prépare, cette mission. Donc, on est censé connaître les moindres boulons, les moindres équipements, mais pourtant, quand on arrive ici, ce qui frappe, c'est l'impression de liberté. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Ce qui frappe, c'est une nouvelle façon de travailler aussi, parce que il faut pas laisser échapper ses outils ou son micro, par exemple, parce que sinon on le retrouve à un endroit complètement différent de là où on l'avait laissé, ce qui m'est arrivé 30 secondes avant de prendre l'antenne. Mais au final, je trouve ça très très pratique. C'est vraiment une nouvelle manière de travailler, mais qui est tellement plus confortable que sur Terre. Voilà, alors je parle même pas de la vue, mais la vue, malheureusement, comme on a commencé à travailler dès le début, j'ai pas encore pu beaucoup en profiter, mais ce week-end je compte passer la plupart de mon temps dans la cupola et puis essayer de prendre quelques photos sympas et puis regarder un petit peu dehors.
Raconte-nous, quelle est la journée type dans l'ISS?
Alors la journée type dans l'ISS, on va se lever à 6h du matin à peu près. Ensuite, on a à peu près une heure et demie pour se préparer, prendre sa douche, faire le petit déjeuner, etc. Enfin, comme sur Terre. Et puis, à 7h30, on commence par une grande conférence avec tous les centres de contrôle, le centre de contrôle de l'ESA, notamment, à Munich, en Allemagne. On passe en revue le plan de la journée, on pose nos questions, on répond aux questions qui ont été posées. Et ensuite, c'est parti pour un peu le marathon de la journée. On est encadré, aidé par le centre de contrôle qui va répondre à nos questions, qui va nous donner des informations. On échange beaucoup par radio. Et puis voilà, le plan nominal, ça va être des activités pour entretenir la station. Donc hier, par exemple, j'ai testé tout le système d'eau pour m'assurer qu'il n'y a pas de bactéries indésirables ou de choses comme ça. Ça, ça m'a pris un moment. Et puis j'ai déjà réalisé des expériences dans Columbus, deux nouvelles expériences qui étaient prévues pour ma mission, que j'ai déjà commencé à installer hier. Une avec des surfaces innovantes qui sont auto-nettoyantes, en fait, sur lesquelles les bactéries adhèrent pas, que j'ai réparties un peu partout dans la cabine. Et une pour le traitement de l'eau qui faisait partie de mes activités d'hier. Il y a aussi un dosimètre actif qui est juste là, à mes pieds. Partout autour de nous, c'est des équipements scientifiques, donc c'est à ça qu'on s'occupe la plupart du temps. Et puis parfois aussi, il y a aussi des pannes et des réparations. Et par exemple, on a passé une bonne partie de la journée, aussi c'était pas prévu, à réparer les toilettes qu'on cassait dès le deuxième jour. Donc ça, c'était un peu la tuile. Mais en même temps, je me dis que ça arrive au début de la mission, ça y est, on a utilisé notre quota de malchance et maintenant, ça devrait marcher jusqu'à la fin. Du moins, j'espère.
Exercice 3. Vous allez entendre une discussion sur les effets des activités sportives sur la nature en Suisse. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, complétez les phrases 1 à 6 en 4 mots au maximum. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Sport Matin avec Caroline Raymond, bonjour.
Bonjour.
La nature est devenue un terrain de jeu pour les sportifs. C'est vrai que les activités d'extérieur se multiplient, été comme hiver d'ailleurs, en montagne, en forêt, au bord de l'eau. Et Caroline, l'accroissement de cette offre de loisirs n'est pas sans conséquence, on va le voir avec vous, sur la faune et sur la flore.
Oui, c'est vrai, les Suisses sont toujours plus nombreux à se déplacer le week-end pour aller faire de l'alpinisme, de la randonnée ou du VTT. Il existe un réel besoin de sortir des villes, de s'extraire des foules pour aller se ressourcer dans la nature. Alors c'est une bonne nouvelle pour l'industrie du tourisme, pour les stations de montagne. Cette tendance est aussi réjouissante en termes de santé publique, mais ces activités de loisirs font pression sur la nature.
Parce qu'il y a aujourd'hui trop de monde en forêt, trop de monde en montagne.
Alors il n'y a pas forcément trop de monde, mais il faut surtout canaliser les sportifs pour qu'ils ne se dispersent pas trop loin dans la nature. L'important, c'est qu'ils restent sur les chemins balisés et qu'ils soient conscients que même une activité comme la course à pied peut être source de dérangement. Nicolas Wüttrich, responsable de l'information pour Pro Natura en Suisse romande.
Quand on a des activités où on se déplace rapidement et en silence, on va beaucoup plus surprendre d'animaux qui ne nous ont pas entendu venir. C'est le cas avec le VTT, c'est le cas avec la course à pied ou si on marche rapidement. Donc là aussi, il faut éviter les zones sensibles. Il faut peut-être éviter aussi au niveau des horaires tôt le matin ou tard le soir parce que les animaux vont sortir à ce moment-là. Ensuite, tant qu'on reste sur les chemins, on évite au moins de piétiner de la flore, des espèces rares. Ça, c'est un bon point.
Alors le but des associations comme ProNatura n'est pas de freiner les activités sportives, mais plutôt de faire de la prévention, mieux délimiter par exemple les zones de tranquillité ou alors diffuser plus largement les cartes et informations sur les itinéraires autorisés.
Les sportifs ont-ils davantage envie aujourd'hui de sortir de ces chemins balisés ?
Alors oui, le freeride est une tendance depuis plusieurs années. L'envie est là d'aller explorer des territoires plus vastes, de se sentir libre. Le risque est donc plus grand de détruire des espèces végétales ou de stresser des animaux, compromettant ainsi leur reproduction ou leur survie en hiver. On prend aussi le risque en ce moment même de rencontrer des ours, il paraît, en Suisse.
Oui, surtout dans le canton de Berne.
Surtout à Berne. Et les nuisances du freeride, bon, ce n'est pas forcément les plus importantes.
Quel est l'enjeu principal alors pour les associations de défense de l'environnement ?
Alors, c'est plutôt l'aménagement d'infrastructures touristiques, une voie d'escalade, un parc aventure ou encore un parcours VTT. Nicolas Vutriche.
Des pistes pour VTT, des nouvelles pistes, c'est comme faire des pistes de ski. Ça peut pas se faire de manière simple. Et puis, c'est pas nécessaire ou pas supportable d'en faire dans chaque station. Il faut pas que chaque station veuille sa piste de VTT. Il faut arriver à s'organiser entre plusieurs stations pour faire une planification régionale. Et puis ensuite, avec peut-être les transports qui vont aller avec pour que les gens puissent se déplacer. Donc ça, c'est important.
C'est important de planifier bien en amont les zones de développement touristique, là où le dérangement aura le moins d'impact. Alors la Suisse en sort plutôt bien dans ce domaine, mais le risque existe de vouloir développer de trop grosses infrastructures.
Sport Matin avec Caroline Raymond, bonjour.
Bonjour.
La nature est devenue un terrain de jeu pour les sportifs. C'est vrai que les activités d'extérieur se multiplient, été comme hiver d'ailleurs, en montagne, en forêt, au bord de l'eau. Et Caroline, l'accroissement de cette offre de loisirs n'est pas sans conséquence, on va le voir avec vous, sur la faune et sur la flore.
Oui, c'est vrai, les Suisses sont toujours plus nombreux à se déplacer le week-end pour aller faire de l'alpinisme, de la randonnée ou du VTT. Il existe un réel besoin de sortir des villes, de s'extraire des foules pour aller se ressourcer dans la nature. Alors c'est une bonne nouvelle pour l'industrie du tourisme, pour les stations de montagne. Cette tendance est aussi réjouissante en termes de santé publique, mais ces activités de loisirs font pression sur la nature.
Parce qu'il y a aujourd'hui trop de monde en forêt, trop de monde en montagne.
Alors il n'y a pas forcément trop de monde, mais il faut surtout canaliser les sportifs pour qu'ils ne se dispersent pas trop loin dans la nature. L'important, c'est qu'ils restent sur les chemins balisés et qu'ils soient conscients que même une activité comme la course à pied peut être source de dérangement. Nicolas Vutriche, responsable de l'information pour ProNatura en Suisse romande.
Quand on a des activités où on se déplace rapidement et en silence, on va beaucoup plus surprendre d'animaux qui ne nous ont pas entendu venir. C'est le cas avec le VTT, c'est le cas avec la course à pied ou si on marche rapidement. Donc là aussi, il faut éviter les zones sensibles. Il faut peut-être éviter aussi au niveau des horaires tôt le matin ou tard le soir parce que les animaux vont sortir à ce moment-là. Ensuite, tant qu'on reste sur les chemins, on évite au moins de piétiner de la flore, des espèces rares. Ça, c'est un bon point.
Alors, le but des associations comme ProNatura n'est pas de freiner les activités sportives, mais plutôt de faire de la prévention, mieux délimiter par exemple les zones de tranquillité ou alors diffuser plus largement les cartes et informations sur les itinéraires autorisés.
Les sportifs ont-ils davantage envie aujourd'hui de sortir de ces chemins balisés ?
Alors oui, le freeride est une tendance depuis plusieurs années. L'envie est là d'aller explorer des territoires plus vastes, de se sentir libre. Le risque est donc plus grand de détruire des espèces végétales ou de stresser des animaux, compromettant ainsi leur reproduction ou leur survie en hiver. On prend aussi le risque en ce moment même de rencontrer des ours, il paraît, en Suisse.
Oui, surtout dans le canton de Berne.
Surtout à Berne. Et les nuisances du freeride, bon, ce n'est pas forcément les plus importantes.
Quel est l'enjeu principal alors pour les associations de défense de l'environnement ?
Alors, c'est plutôt l'aménagement d'infrastructures touristiques, une voie d'escalade, un parc aventure ou encore un parcours VTT. Nicolas Vutriche.
Des pistes VTT, des nouvelles pistes, c'est comme faire des pistes de ski. Ça peut pas se faire de manière simple. Et puis, c'est pas nécessaire ou pas supportable d'en faire dans chaque station. Il faut pas que chaque station veuille sa piste de VTT. Il faut arriver à s'organiser entre plusieurs stations pour faire une planification régionale. Et puis ensuite, avec peut-être les transports qui vont aller avec pour que les gens puissent se déplacer. Donc ça, c'est important.
C'est important de planifier bien en amont les zones de développement touristique, là où le dérangement aura le moins d'impact. Alors la Suisse en sort plutôt bien dans ce domaine, mais le risque existe de vouloir développer de trop grosses infrastructures.
Exercice 4. Vous allez entendre une jeune fille, Ninon, parler de son hobby. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, trouvez les éléments corrects dans la liste A à K pour compléter les phrases 1 à 8. Il y a deux éléments dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
J'ai eu la chance de faire du théâtre pendant 6 ans. Donc j'ai commencé, j'avais 9 ans, donc dans une école de théâtre en région parisienne, puisque je vivais en région parisienne. J'ai adoré. Donc pendant ces 6 ans, j'ai fait des représentations théâtrales chaque fin d'année. J'ai aussi fait un petit peu de Commedia dell'arte.
C'est quoi ça? Tu peux expliquer?
C'est en fait du théâtre et c'est surtout en fait un jeu avec les masques. Donc c'est un art théâtral qui est surtout italien en fait, qui vient d'Italie. Et dans ce type de spectacle, on est un peu obligé de transformer sa voix aussi, puisque c'est tout un jeu sur le corps, le mouvement, les voix, aussi jouer avec le masque. Donc ça change en fait du théâtre plus traditionnel.
Et dans la Commedia dell'arte, il y a des textes aussi, il y a des histoires comme dans les pièces normales.
Oui, il y a du texte et justement le jeu en fait, c'est de vraiment caricaturer presque le texte pour vraiment faire ressortir. Souvent c'est assez comique et ça peut être aussi dramatique, mais très souvent le texte est caricaturé par rapport au théâtre traditionnel, même si dans le théâtre le jeu, enfin on est toujours dans le jeu et c'est pas forcément la réalité, et c'est ça qui est bien dans le théâtre, c'est que on peut être n'importe qui et jouer absolument tout ce qu'on souhaite, et il n'y a pas de limite, seulement l'imagination.
Oui, mais quand même, il y a des textes. Quand tu joues, quand tu es au théâtre, il y a des textes. Tu dois suivre
un
texte.
Oui, on doit suivre un texte. Mais après, il y a aussi les improvisations qui peuvent aussi nous amener à peut-être voir un rôle d'une autre manière et pas forcément ce qui est indiqué dans le texte. On peut aussi se réapproprier le personnage, le jeu. Et ça, c'est très intéressant au théâtre.
Alors, tu as dit tu as commencé, tu avais 9 ans.
Oui, 9 ans.
Qu'est-ce qui fait commencer une petite fille ou une enfant à faire du théâtre?
Alors mon professeur en fait en primaire a dit à mes parents que j'avais beaucoup d'énergie et que j'avais peut-être besoin de canaliser aussi cette énergie, et ma mère m'a emmenée au théâtre parce que le professeur a suggéré l'idée, et j'ai tout de suite adoré en fait dès le premier cours, et j'ai voulu continuer, j'ai continué pendant 6 ans.
Et pourquoi tu t'es arrêtée alors?
Parce qu'en fait on a déménagé, et c'est vrai qu'au théâtre on lie des liens assez rapidement, et une troupe c'est un peu comme une famille, et j'ai eu du mal après à retrouver ce lien, parce qu'à Poitiers j'ai essayé, donc il y avait une sorte de cours en fait, mais plus focalisé sur l'improvisation. Et j'ai moins apprécié parce que, je sais pas, le lien se faisait pas avec la troupe, et je pense que c'est important puisqu'on construit ensemble un spectacle, Et c'est important qu'il y ait ce lien et comme une sorte de solidarité, comme dans une famille. Donc voilà.
Et donc, tu n'as pas retrouvé ça à Poitiers, donc tu t'es arrêtée ?
Voilà, c'est ça. Et puis là, cette année, c'était ma dernière année de licence. Donc, je ne pouvais pas vraiment me permettre de faire une activité extrascolaire parce que le théâtre, ça demande beaucoup d'entraînement chez soi aussi, puisqu'on a du texte à apprendre en plus. Et on doit s'investir complètement quand même dans le rôle, puisqu'après, on le joue et on ne peut pas faire les choses à moitié, en fait, dans le théâtre. Et du coup, cette année, j'avais pas le temps non plus... De m'investir ou de faire du théâtre.
Ok, merci.
J'ai eu la chance de faire du théâtre pendant 6 ans. Donc j'ai commencé, j'avais 9 ans, donc dans une école de théâtre en région parisienne, puisque je vivais en région parisienne. J'ai adoré. Donc pendant ces 6 ans, j'ai fait des représentations théâtrales, chaque fin d'année. J'ai aussi fait un petit peu de Commedia dell'arte.
C'est quoi ça ? Tu peux expliquer ?
C'est en fait donc du théâtre et c'est surtout en fait un jeu avec les masques.
Ah.
Donc c'est un art donc théâtral qui est surtout italien en fait, qui vient d'Italie. Et dans ce type de spectacle, on est un peu obligé de transformer sa voix aussi, puisque c'est tout un jeu sur le corps, le mouvement, les voix, et aussi jouer avec le masque. Donc ça change en fait du théâtre plus traditionnel.
Et dans la Commedia dell'arte, il y a des textes aussi, il y a des histoires comme dans les pièces normales.
Oui, il y a du texte et justement le jeu en fait c'est de vraiment caricaturer presque le texte pour vraiment faire ressortir, souvent c'est assez comique et ça peut être aussi dramatique mais très souvent c'est le texte est caricaturé par rapport au théâtre traditionnel même si dans le théâtre le jeu, enfin on est toujours dans le jeu et c'est pas forcément... la réalité, et c'est ça qui est bien dans le théâtre, c'est que on peut être n'importe qui et jouer absolument tout ce qu'on souhaite, et il n'y a pas de limite, seulement l'imagination.
Oui, mais quand même, il y a des textes quand tu joues, quand tu es au théâtre, il y a des textes, tu dois suivre
un texte. Oui, on doit suivre un texte, mais après, il y a aussi les improvisations qui peuvent aussi nous amener à peut-être voir un rôle d'une autre manière et pas forcément ce qui est. Indiqué dans le texte, on peut aussi se réapproprier le personnage, le jeu, et ça c'est très intéressant au théâtre.
Alors tu as dit, tu as commencé, tu avais 9 ans.
Oui, 9 ans.
Qu'est-ce qui fait commencer une petite fille ou une enfant à faire du théâtre ?
Alors mon professeur en fait en primaire a dit à mes parents que j'avais beaucoup d'énergie et que j'avais peut-être besoin de canaliser aussi cette énergie. Et ma mère m'a emmenée au théâtre pour... Parce que le professeur a suggéré donc l'idée et donc j'ai tout de suite adoré en fait dès le premier cours et j'ai voulu continuer. J'ai continué pendant 6 ans.
Et pourquoi tu t'es arrêtée alors ?
Parce qu'en fait on a déménagé et c'est vrai qu'au théâtre on lie des liens assez rapidement et une troupe c'est un peu comme une famille et j'ai eu du mal après à retrouver ce lien parce qu'à Poitiers j'ai essayé donc il y avait une sorte de cours en fait mais plus focalisé sur l'improvisation et j'ai moins apprécié parce que je sais pas, le lien se faisait pas avec la troupe et je pense que c'est important puisqu'on construit ensemble un spectacle. Et c'est important qu'il y ait ce lien et comme une sorte de solidarité, comme dans une famille. Donc voilà.
Et donc, tu n'as pas retrouvé ça à Poitiers, donc tu t'es arrêté?
Voilà, c'est ça. Et puis là, cette année, c'était ma dernière année de licence. Donc, je ne pouvais pas vraiment me permettre de faire une activité extrascolaire parce que le théâtre, ça demande beaucoup d'entraînement chez soi aussi, puisqu'on a du texte à apprendre en plus. Et on doit s'investir complètement quand même dans le rôle, puisqu'après, on le joue et on peut pas faire les choses à moitié en fait dans le théâtre. Et du coup, cette année, j'avais pas le temps non plus. De m'investir ou de faire du théâtre.
Ok, merci.
C'est la fin du test de compréhension orale.